Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport. Une fois n'est pas coutume, que du football, de la première à la 30e minute de ce numéro. Allez, on glissera peut-être un petit mot de tennis et de cyclisme dans le temps additionnel. Sinon, c'est la fête du ballon rond ce soir, avec d'abord la finale aller de la Coupe de la Confédération en Afrique entre les Marocains de la Renaissance de Berkane et les Égyptiens de Zamalek. Levé de rideau assuré par Antoine Grenier et Hakim Tamim dans un instant. Ambiance pas vraiment à la fête au Real Madrid, plombé jusqu'au bout. Le dernier match en Liga s'est soldé par une défaite, avec un symbole, comme un symbole d'une saison à envoyer aux oubliettes de l'histoire du club. Le tableau d'honneur du football français 2018-2019, les trophées UNFP remis ce soir à Paris. Kylian Mbappé rafle évidemment la mise, meilleur joueur, meilleur espoir, palmarès complet avec Martin Guez. Gros plan également sur la jeune génération sénégalaise en route vers le mondial des moins de 20 ans. Nous partirons ensuite au Canada à la rencontre de Rémi Gard, l'entraîneur de l'Impact Montréal depuis fin 2017, qui a pris ses marques dans une Major League Soccer si singulière et en pleine progression. Entretien à suivre avec Romain Chouet. Enfin, Maradona en haut de l'affiche à Cannes. Oui, les années napolitaines de l'icône argentine racontées dans un documentaire présenté hors compétition sur la Croisette. Séance de cinéma offerte en fin d'émission par Sophie Torlotin. Allez, le foot africain de club pour lancer cette demi-heure. Bonsoir Antoine Grenier.
Bonsoir Christophe.
Une demi-heure, c'est ce qui nous sépare du coup d'envoi de la finale aller de la Coupe de la Confédération. La Renaissance de Berkane accueille le Zamalek du Caire. Une finale déséquilibrée sur le papier, mais on est habitué aux surprises.
Et pourquoi pas une venant de Berkane à une vingtaine de kilomètres de la frontière algérienne. Une équipe ambitieuse au palmarès encore vierge au plan continental face à un Zamalek 5 fois vainqueur de la Ligue des Champions, mais encore jamais de la Coupe de la Confédération. C'est à noter, même si les Kérottes ont remporté la Coupe des Coupes, aujourd'hui disparue, c'était en l'an 2000. Alors pour parler de cette finale aller de Coupe de la Confédération, dont le tenant du titre est marocain, c'est le Raja Casablanca, on va joindre tout de suite notre correspondant au Maroc. Bonsoir Anas Yacine.
Bonsoir à toutes et à tous.
Alors on le disait, la finale approche. Quelle est l'ambiance au Maroc, pays qui veut bien évidemment garder la Coupe à la maison?
Ben, vous l'imaginez, il y a une certaine effervescence parce qu'il y a de la sympathie, de l'admiration pour ce petit boussé qui a bousculé la hiérarchie et la Renaissance de Berkane a réussi à se faire une petite place aux côtés des gros bras du genre le Wydad, le Raja notamment, qui trustent des titres et qui ont déjà goûté aux délices des succès africains. Berkane, c'est l'oriental, avec le mot Wydad Oujda, ça représente l'est du Maroc, une région qui a donné de grands sportifs à l'image de l'athlète Hicham El Guerrouj, champion du monde et olympique. Mais en football, la région attend, rêve d'un sacre africain, d'où l'effervescence qui accompagne et qui a accompagné la Renaissance de Berkane tout au long de sa campagne africaine.
Alors pour rêver de ce titre, il va falloir surtout rêver d'exploit parce que clairement, dans cette finale, le Zamalek du Caire est favori.
Bah, tout le monde le reconnaît, entraîneur, joueur, supporter ou encore journaliste. Le Zamalek n'est plus à présenter, c'est l'un des poids lourds du continent. Son palmarès, son vécu font de lui le grand favori. De plus, il a souvent tiré son épingle du jeu lorsqu'il a affronté des clubs marocains. Cette année encore, il a barré la route à l'Ittihad de Tanger, c'est le champion du Maroc, le Hassania d'Agadir. Mais sait-on jamais, une expulsion, un pénalty, un jour sans. Et puis le Zamalek d'aujourd'hui, ce n'est plus le plus grand, enfin le grand club qui écrasait tout sur son passage. Donc tout est possible dans une double confrontation.
Et puis on le rappelle, le Zamalek qui se présente avec un seul gardien, Omar Salah, puisque deux portiers sont suspendus côté égyptien. Alors Anas Yacine, Berkane en finale, c'est quand même une forme de logique au vu des prestations de l'équipe ces dernières années.
Oui, c'est une équipe qui a longtemps évolué en deuxième division, mais depuis son accession, saison 2011-2012, c'est pas la première montée, bien sûr. L'équipe de l'Oriental a progressé en engageant des joueurs de qualité, déjà, et puis des entraîneurs de renommée, à l'image de Bertrand Marchand ou encore Rachid Taoussi, ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas, qui sont passés par la RSB. Et puis, au mois de novembre dernier, l'équipe a remporté le premier titre de son histoire, la Coupe du Trône, après avoir perdu la finale en 1987. Aujourd'hui, elle dispute la finale de la Coupe de la CAF, après avoir réussi un très joli parcours la saison dernière déjà. Donc, c'est une équipe qui progresse. Et là, elle n'est pas loin des meilleurs au niveau marocain et aussi africain.
Et Anas Yacine, on va aborder la petite question polémique de cette finale, la question de l'accueil des équipes visiteuses à Berkane. Les clubs sénégalais s'en sont pleins. En demi-finale également, le club sportif sfaxien a regretté notamment le bus qui, selon l'équipe, était hors d'âge, le bus mis à disposition par Berkane. Est-ce que c'est encore le cas cette fois où les Kérotes ont été contents de l'accueil?
Ah non, il y a eu un accueil très chaleureux pour l'équipe égyptienne dès l'arrivée, dès le soir déjà, et ça s'est poursuivi tout au long de son séjour. Vous le disiez, il y avait plusieurs équipes. Vous avez rappelé l'équipe sénégalaise de Génération Foot qui avait parlé d'un autocar vieux. Les Tunisiens, eh bien, ont évoqué une sirène qui a retenti dans un hôtel à 5h du matin, le jour du match. D'autres, il faut le dire aussi, d'autres équipes ont pointé du doigt un arbitrage favorable à chaque fois qu'ils ont affronté la Renaissance de Berkane. Bien sûr, des accusations que les Berkanis ont toujours rejetées sans avoir réussi à les faire cesser. Mais parfois, on dit que c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, on le rappelle, pour l'arbitrage, eh bien, on aura droit à la VAR.
Un arbitrage assuré ce soir par le Zambien Gianni Sikazoué. Merci, Anas Yacine. Renaissance de Berkane Zamalek, finale aller de la Coupe de la Confédération. Coup d'envoi, 22h, temps universel.
Comme chaque fin de saison, c'est l'heure de la distribution des prix pour les footballeurs et les footballeuses les plus méritants, les plus prolifiques dans leurs championnats respectifs, ainsi que pour les entraîneurs les plus inspirés dans leur choix de jeu. En France, c'est l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels, qui les décerne sur la base des votes de ses adhérents. L'occasion de réunir ce soir la crème de la saison 2018-2019 dans un endroit chic du Bois de Boulogne à Paris, le pavillon d'Armenonville, où nous avons dépêché Martin Guèze. Bonsoir Martin.
Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous.
Un palmarès, on va dire sans surprise, avec comme grand gagnant, je vous le donne en mille, un certain Kylian Mbappé, chronique d'un triomphe annoncé pour le Parisien, sacré notamment meilleur joueur de Ligue 1.
Ben oui, mais qu'est-ce qu'il va en faire de tous ces trophées? Il s'en est presque amusé, Kylian Mbappé. Il a d'ailleurs avoué avoir construit une pièce prévue pour ranger tous ses trophées chez lui. Il reste encore un petit peu de place, à ce qui paraît. Mais le prodige a encore bien empilé les récompenses ce soir. D'abord, celle du meilleur espoir, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. C'est la troisième fois consécutivement qu'il l'emporte dans cette catégorie. Avant le titre suprême, celui du meilleur joueur de Ligue 1, devant Nicolas Pépé, Neymar, Ben Arfa ou encore Di Maria. Une juste récompense pour le serial buteur, 32 buts cette saison en championnat, du jamais vu pour un Français depuis Jean-Pierre Papin. Saison bien remplie, mission accomplie.
Oui, accomplie sur le plan personnel. Après, bien sûr que j'aurais aimé pas prendre tous les trophées aujourd'hui et repartir avec beaucoup plus de trophées collectifs. Mais après, je ne vais pas me plaindre. Je travaille aussi toute l'année pour ce genre de distinction. Je suis très content. Et c'est une source de motivation supplémentaire pour continuer et réattaquer à chaque fois, chaque année.
Voilà, chaque année, mais peut-être plus au PSG, comme sur les terrains. Il a pris tout le monde à contre-pied en ouvrant la porte à un possible départ de Paris lors de la remise du prix.
Je pense que pour moi, c'était le moment de le dire. Voilà, lorsque je suis quelqu'un d'entier, lorsque je dis quelque chose, je le pense. Si c'est au Paris Saint-Germain, c'est tant mieux, avec plaisir. Et si c'est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau challenge.
Bonne soirée.
Voilà, bonne soirée devant un panel de journalistes très circonspects. Les dirigeants parisiens aussi doivent faire les gros yeux.
Il a acheté un froid quand même, ce soir, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé adoubé donc par ses pairs, mais aussi par d'anciennes gloires de Ligue 1.
Et oui, notamment par Didier Drogba, l'Ivoirien, jeune retraité, qui avait lui remporté le titre suprême en 2004. Il jouait alors à Marseille et il était de passage dans l'Est parisien pour recevoir un trophée d'honneur de l'UNFP. L'ancien capitaine des éléphants, qui ne voit pas de frein à la progression de Kylian Mbappé, c'est d'ailleurs lui qui lui a remis le trophée. Un joueur qu'il adore, les vrais attaquants reconnaissent les vrais.
C'est très facile à juger ce genre de saison. À cet âge-là, avoir déjà gagné beaucoup, beaucoup sur le terrain, mais surtout avoir été décisif, plus de 80% dans toutes ces rencontres. C'est un joueur à 20 ans, on peut dire qu'il a encore il a un bel avenir. Et même si là, on ne sait plus ce qu'il va gagner de haut. Non, c'est beau. Et moi, en tant qu'avancement, j'apprécie vraiment la progression et surtout cette saison. Il est beaucoup plus fin, il est rapide, donc il a un jeu qui est adapté à ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être bon. Moi, j'aime le voir quand son équipe est en difficulté, comment il réagit. Et voilà, entre attaquants, on se reconnaît.
Voilà, donc le seul joueur africain finalement récompensé de la soirée, puisque les Sénégalais de Rennes, Ismail Assar, celui de Reims, Edouard Mendy ou encore celui de Metz, Habib Diallo sont repartis bredouille, tout comme Nicolas Pépé, le vainqueur du prix Marc-Vivien Fouet 2019, qui termine donc derrière Kylian Mbappé pour le prix du meilleur joueur de Ligue 1.
Alors pas de récompense pour Nicolas Pépé, mais quand même pour l'équipe lilloise.
Eh ben, ils ont presque tout raflé. Le meilleur entraîneur pour Christophe Galtier, le meilleur gardien pour Mac Maignan, le plus beau but pour l'attaquant Loïc Remy. Le Dauphin avait donc fière allure, et puis on a regardé un petit peu aussi du côté des filles. Dans ce cas-là, on ne change pas une recette qui gagne. Troisième récompense de suite pour Jennifer Marozon, l'Allemande, qui gagne pour la troisième fois le titre de meilleure joueuse de Ligue 1, elle qui joue à l'Olympique Lyonnais et qui a remporté aussi sa quatrième Ligue des Champions consécutive. Et puis, du côté des espoirs, c'est Marie-Antoinette Katoto qui a été récompensée, elle aussi, la joueuse du PSG, meilleure buteuse du championnat de France, qui est récompensée pour la deuxième saison suite. On ne change pas une recette gagnante.
Merci beaucoup Martin Guez, et comme vous l'avez justement rappelé, Nicolas Pépé est donc cette année le prix Marc-Vivien Fouet, RFI France 24, meilleur joueur africain de Ligue 1, et vous l'entendrez donc longuement demain dans Radio Foot International à partir de 15h10, temps universel, dans un entretien exclusif. Il était vraiment, mais alors vraiment temps que la saison de Liga se termine au Real Madrid. La dernière journée, ce dimanche, disputée à Santiago Bernabéu, aurait pu au moins permettre de finir sur une bonne note cette saison complètement ratée. Eh ben non, même le départ en vacances a été gâché par une défaite 2-0 face au Betis Séville. En rentrant définitivement au vestiaire sous les huées d'un public excédé, les joueurs ont baissé le rideau sur une anus horribilis, vite oubliée, pour attaquer le ménage de printemps dans l'effectif. Reportage de notre correspondant Pierre Chaperon.
C'est devenu une habitude, une routine cette saison. Un faux pas, des sifflets dans les gradins de Bernabéu, toujours aussi peu fourni, un peu moins de 57 000 personnes aujourd'hui. 12e défaite en championnat, une première depuis 1999. 68 points de marqué, plus petit total en Liga depuis 2002. Madrid n'y est plus, les merengues vivent un chemin de croix en cette fin de saison et les supporters avec. C'est le cas de Fernando, venu avec quelques amis profiter de cette dernière journée de Liga. Pour lui, ce cru 2018-2019 est à oublier très rapidement.
Oui, c'est un peu traumatisant. C'est sûrement notre pire saison au XXIe siècle parce que nous venions de remporter la Ligue des Champions. Et là, maintenant, nous n'avons rien gagné. Et ça, ça fait mal. Le Real doit toujours gagner. Il doit toujours lutter dans les compétitions. Nous voulons qu'il le fasse. Et les joueurs doivent toujours se battre avec l'entraîneur. Mais clairement, il faut penser à la prochaine saison. Et là, le renouvellement est nécessaire.
Regardez vers l'avenir pour ne plus penser au présent. Un grand classique chez les supporters, mais un refrain que l'on retrouve également dans la communication du club. Dirigeants comme joueurs se projettent déjà sur le prochain exercice. Marcelo, vice-capitaine du club, ne déroge pas à la règle, même s'il regrette les erreurs commises cette saison.
C'est notre faute, nous n'avons pas été à la hauteur cette saison, mais nous avons essayé jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute du dernier match. Mais c'était difficile, sincèrement, la prochaine saison sera différente. Nous allons ramener de la joie et de la motivation. La saison prochaine commence dès maintenant. Ce que nous allons faire, c'est travailler pour redevenir le Real.
Alors oui, comme annoncé depuis le retour de Zidane, il y aura du changement. Le défenseur brésilien de Porto, Militao, a déjà signé. Le Belge Eden Hazard et le Serbe Luka Jovic devrait suivre Pogba, Ferland Mendy, Eriksen, Van de Beek. La liste des options est longue. Tous les postes devraient être concernés, alors que Keylor Navas, Isco et Bale sont annoncés sur le départ. Mais tout ne va pas pour autant être chamboulé. Non, comme l'explique Zinedine Zidane, c'est dans la préparation que le succès futur du Real va se construire.
De toute façon, on ne va pas changer nos 25 joueurs. Il va falloir faire du changement intelligent. On va essayer de le faire, justement. Et après, ce qu'il faut faire là maintenant, c'est juste se reposer et revenir avec des autres intentions. Toute l'année, en fait, tu ne peux pas le faire, ça. Maintenant, on va avoir une vraie préparation. Une vraie préparation, c'est ce qui s'est passé, en fait, il y a deux ans. Là, il n'y a pas de compétition. Et après, on a 6 semaines où on va travailler. Et 6 semaines où on va travailler pour notre saison, pour qu'on soit au top.
La page a donc été très vite tournée pour le Real qui, malgré tout, jouera la Ligue des Champions l'an prochain. Peu actif depuis plusieurs années sur le marché des transferts, Florentino Pérez va donc ressortir le chéquier et amorcer un nouveau chapitre galactique pour le club. Il faut en passer par là pour ne plus revivre les broncas du public et surtout contenter ses électeurs, les socios. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et si le Real a manqué sa sortie, c'est à peine mieux pour le champion, le FC Barcelone, tenu en échec cet après-midi à Eibar, 2-2, malgré 2 buts coup sur coup de Lionel Messi à la demi-heure de jeu. L'Argentin arrête son compteur de buts en championnat à 36 pour cette saison. On repart en Afrique avec vous Antoine. Place aux jeunes, on a parlé du Mali hier dans Mondial Sport. Ce soir, on s'intéresse au voisin, le Sénégal, qui va ouvrir le bal de la Coupe du Monde des moins de 20 ans prévu en Pologne.
Les Lionceaux, vice-champions d'Afrique, jouent dès jeudi, avant même le pays organisateur. Ce sera le tout premier match de la compétition face à Tahiti pour le compte du groupe A. Les Sénégalais qui feront ensuite également avec le pays organisateur, justement la Pologne et puis la Colombie. L'équipe du Sénégal participe à son troisième mondial de suite. Après 2015 où les Lionceaux avaient fini quatrième et 2017. Et cette équipe du Sénégal ne manque pas d'ambition, même si au pays, on ne veut pas s'enflammer, Babacar Fall.
Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de football, ne veut surtout pas mettre de pression sur les joueurs.
Dans le football des jeunes, nous nous battons pour avoir des trophées, mais nous nous battons surtout pour faire grandir des générations de joueurs qui vont perpétuer cette dynamique positive qui s'est installée dans toutes nos équipes nationales depuis quelques années.
Mais pour le ministre des Sports, Matarba, cette équipe du Sénégal des moins de 20 ans, vice-championne d'Afrique et quatrième au Mondial en 2015, cette équipe-là, selon lui, a un statut à défendre.
Comme toujours, votre réputation et vos résultats appréciables vous ont devancé et naturellement vous êtes attendu par le monde du football et par vos adversaires. Rappelez-vous qu'en 2015, vous avez été demi-finaliste de cette compétition et votre ambition minimale, notre ambition minimale, est de jouer la finale et pourquoi pas la gagner. Il ne faut pas se faire des limites. Gagner cette compétition est dans l'ordre du possible et ma conviction est que si vous y croyez, vous pouvez réaliser cet objectif. Il n'y a pas de secret, seul le travail paye. Surtout le travail bien fait.
Et la prudence du sélectionneur Youssouf Dabo.
C'est une Coupe du Monde et quand on parle de Coupe du Monde, ça suppose qu'il y aura les meilleures équipes du monde. Donc ce sera très difficile, mais on sera présent.
Dabo, qui peut toutefois compter sur des joueurs expérimentés comme les attaquants Messin, Ibrahima Niang et Amadou Diagne, qui viennent d'être sacrés champions de Ligue 2 française. Diagne, auteur d'un doublé ce vendredi en match de préparation contre le Panama.
On sait qu'il y aura... Il y aura un niveau très élevé. Alors, notre objectif, c'est d'abord d'essayer de sortir sur les deux premières du groupe. Et la suite, on verra.
Et derrière, l'équipe peut compter sur son excellent gardien, Djali Kobali Ndiaye, qui a brillé lors de la dernière CAN U20 au Niger et qui a été appelé par Aliou Cissé lors du dernier rassemblement de l'équipe A du Sénégal.
Bon, en tout cas, moi, ce que je ferai, je le ferai. C'est une question de collectivité d'abord, avant d'individualité. Bon, en tout cas, moi, ce que je mets en priorité, c'est collectif. On s'attend à une compétition de feu. Essayer d'aller représenter dignement le pays et tisser le drapeau le plus haut possible.
Des Lionceaux logés dans le groupe A de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans et qui sont prêts donc à en découdre avec la Colombie, Tahiti et, attention, la Pologne. Youssouf Dabo, le sélectionneur.
On les jouera le troisième match. J'espère qu'on aura déjà notre qualification avant de les jouer parce que l'objectif c'est ça. Maintenant, ce sera jamais facile, hein. même si on sera déjà qualifié. Ce sera jamais facile de jouer le pays organisateur.
Babacar Fall, Dakar, RFI.
Direction maintenant le Canada pour aller prendre des nouvelles d'un entraîneur qui a fait les beaux jours de l'Olympique lyonnais de 2011 à 2014, Rémi Garde, en charge depuis un an et demi de l'Impact de Montréal, le club phare de la MLS, le championnat nord-américain, ancien club notamment de Didier Drogba. Une équipe en forme, troisième de la conférence Est après 14 matchs disputés dans cette saison régulière. Rémi Garde qui a reconstitué outre-Atlantique un cercle cercle de fidèles de l'époque OL pour travailler dans cet environnement nouveau où il se sent de mieux en mieux. Notre correspondant au Canada, Romain Chouet, l'a rencontré cette semaine pour faire le point sur son parcours à la tête de la franchise québécoise.
Si je devais faire un bilan maintenant, il serait positif, sincèrement, voire même très positif, d'un point de vue professionnel, bien sûr, puisque c'était l'objectif en venant ici. Puis d'un point de vue plus personnel, parce que derrière ma démarche de venir ici, il y avait aussi un choix de vie personnel, c'est aussi très positif.
Vous découvrez aussi un championnat qui a ses particularités, parfois on joue sur des terrains synthétiques, parfois on a aussi de longs déplacements en avion. Comment vous vous êtes accommodé à ces particularités de la MLS ?
Contraint et forcé, mais en connaissance de cause, encore une fois, puisque bien sûr rien ne m'a surpris, mais vous savez, quand je suis venu ici, je sais que c'est un championnat qui pour moi est un championnat qui est dans une courbe vraiment ascendante, avec un point de passage avec la Coupe du Monde en ligne de mire, voilà, qui sert un peu de locomotive à tout le monde. Je sais que c'est un championnat qui se professionnalise. Les règles au niveau du salary cap, les règles au niveau justement des déplacements des joueurs et des équipes, il y a une réflexion qui est menée là-dessus. Donc bien sûr que ce sont des conditions parfois difficiles, mais qui peuvent pas être toutes résolues du jour au lendemain.
Le niveau de jeu justement de la MLS par rapport à ce que vous saviez avant d'arriver, par rapport à maintenant à votre deuxième saison, vous sentez qu'il y a une forte progression ?
Le jeu va plus vite. Il y a encore des stars pour qui l'Europe devient peut-être un petit peu moins attrayante et qui viennent encore ici, qui apportent autre chose que la vitesse dans le jeu. Ils apportent leur expérience, ils apportent leur connaissance du jeu.
Comme Zlatan Ibrahimovic par exemple à Los Angeles.
Exactement, Wayne Rooney, des gens comme ça qui vraiment font du bien à la Ligue, mais aujourd'hui c'est complètement faux de réduire la MLS à Zlatan ou à Wayne Rooney. On l'a vu, il y a des jeunes joueurs comme Almiron qui est parti à Newcastle, qui a été acheté très cher, Davis de Vancouver, donc voilà, c'est vraiment un bouillonnement ici, à l'image du pays, enfin des deux pays, puisque nous on est au Canada bien sûr.
Votre saison aussi, ça se passe nettement mieux que l'an passé à la même époque, vous jouez les premiers rôles cette année dans la Conférence Est, quels sont vos objectifs en fin de saison ?
Les mêmes que l'an dernier, qu'on n'a pas réussi à atteindre malheureusement, de peu, mais on les a pas atteints, c'est d'être dans les playoffs, donc de terminer cette année dans les 7 premiers, puis bien sûr de faire bonne figure dans les playoffs, le premier objectif c'est ça. Il y a aussi le championnat canadien qui correspond à la Coupe du Canada, qui est aussi un objectif parce que ce serait la porte ouverte sur la Ligue des champions de la CONCACAF pour la saison prochaine.
Vous avez fait venir avec vous des anciens Lyonnais dans le staff comme Robert Duverne, Joël Batz, Rémi Vercoutre aussi. Des joueurs connus sur la scène internationale française comme Bakary Sagna ou Rod Fani, mais aussi l'Algérien Safir Taider international. C'est agréable pour vous de pouvoir évoluer, de pouvoir diriger des joueurs comme ça que vous connaissez déjà ?
Oui, c'est important. J'essaie d'attirer des joueurs ici qui ont un intérêt pour ce championnat, pour cette ligue, pour ce pays. C'est pas financièrement qu'on attire les joueurs ici. C'est pas l'objectif. Je pense que c'est un projet sportif et un projet humain qui est très différent. En fait, pour moi, c'est effectivement très très agréable de travailler avec eux.
C'est Pierre Taider, c'est la preuve aussi qu'en MLS, on peut continuer de se faire remarquer, continuer de progresser. Il a été un petit peu critiqué en Algérie quand il est arrivé à Montréal pour ce choix sportif. Il avait perdu sa place en sélection algérienne. Il a retrouvé sa place après un très bon début de saison. Vous pensez que Safir Taider a retrouvé son meilleur niveau ?
Je peux vous dire que Safir n'est pas venu à la retraite ici. Il avait cette appréhension d'un joueur de 26 ans qui vient en MLS et qui ne voulait pas que les gens interprète ça comme une semi-retraite, et le fait que je sois là avec mon état d'esprit européen, mon staff européen, je lui dis qu'il pourrait continuer à progresser, que ça dépendrait de l'investissement qu'il mettrait dans son travail, et franchement il prend cette expérience exactement comme il faut la prendre, et il démontre effectivement qu'il a retrouvé sa place en sélection, qu'il continue de progresser parce qu'il travaille très bien à l'entraînement tout simplement.
Il vous reste encore une année de contrat, une année avec une option justement, est-ce que vous allez rester à Montréal, en MLS, au Canada, en 2020 ?
Contractuellement, on doit effectivement entrer dans des discussions prochainement avec l'Impact. De mon côté, poursuivre ici le travail que j'ai commencé et qui commence à porter ses fruits avec l'aide de mon staff, me plairait de poursuivre dans cette voie. Puis si c'était pas à Montréal que je dois continuer, je vous l'ai dit, la MLS est un championnat que j'ai pas choisi par défaut. Je commence à comprendre les rouages et voilà, on verra ce que l'avenir me réserve. Chaque chose en son temps, même si je sais que c'est des questions qui doivent être posées.
Rémi Garde, l'entraîneur de l'Impact Montréal. Pour finir ce Mondial Sport, mettez votre smoking, n'oubliez pas le nœud papillon, montez dans la limousine, nous partons, nous aussi, faire la montée des marches du festival à Cannes. Cette année, il y a une bonne raison pour cela, elle s'appelle Maradona. Oui, la légende argentine fait parler d'elle sur la croisette à l'occasion d'un documentaire présenté dans la sélection officielle, mais hors compétition, consacré aux années de l'ancien attaquant passé à Naples, les plus fastes, mais aussi celles qui ont précipité sa chute. Documentaire signé du réalisateur britannique Asif Kapadia, spécialiste des portraits de personnages au destin tragique, comme le pilote de Formule 1 Ayrton Senna ou la chanteuse Amy Winehouse. Une de nos envoyées spéciales à Cannes, Sophie Torlotin, l'a vue pour nous en avant-première.
On l'appelle El Pibe de Oro, le gamin en or, le maître. Certains l'élèvent même au rang de saint, voire de dieu du ballon rond. Asif Kapadia s'est concentré sur les années napolitaines de Diego Maradona. Le film commence le 5 juillet 1984, le jour de son arrivée triomphale au Napoli, un club frôlant la relégation, et s'achève lorsqu'il quitte Naples, seul, brisé, déchu, en 1992. Pendant ces 8 années, le surdoué aux cheveux bouclés se transforme pour le meilleur comme pour le pire. Asif Kapadia.
Son histoire est immense et le premier montage de mon film durait 5 heures. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui se répétaient entre ce qui lui est arrivé en Argentine puis à Barcelone. Et le plus important, c'était à Naples. C'est là qu'il est devenu le meilleur footballeur du monde. Membre du club de Naples, il gagne une première fois le mondial avec l'Argentine. Il intègre le SSC Napoli, une équipe qui n'a jamais gagné, et il remporte le championnat. Le jeune Diego se transforme en Maradona, un homme à l'ego démesuré. Il commence à avoir des problèmes personnels, il refuse de reconnaître son fils, il noue des amitiés avec des chefs de la mafia, il prend de la drogue. C'est de là que vient le Maradona que l'on connaît.
Fidèle à sa méthode, Asif Kapadia n'utilise que des images d'archives, des extraits de matchs du championnat italien comme des deux coupes du monde, celles de 1986 et de 1990, des séquences intimes aussi provenant de films de famille, le tout commenté par Diego Maradona lui-même, que l'on entend donc en voix off sans le voir à l'image. Surtout, le documentariste britannique de 47 ans a mis la main sur des images inédites, tournées par des Argentins ayant suivi de près Diego Maradona.
La plupart des cassettes prenaient la poussière dans des boîtes. Les cassettes avaient d'ailleurs commencé à se dégrader. Donc, j'ai tout d'abord proposé de les numériser pour les sauver, avant même d'obtenir les droits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire que tout le monde croit connaître, mais d'une façon inédite.
Un moment semble charnière, la demi-finale de la Coupe du Monde de 1990. L'Argentin Diego Maradona, adulé à Naples, affronte l'Italie lors d'un match sous haute tension. L'Argentine gagne in extremis au tir au but, ce qui signe le début du désamour des Italiens avec leur icône napolitaine.
C'est un moment clé de ses relations avec l'Italie et avec ceux qui le protégeaient à Naples. C'était un moment épique. Qui plus est, le match a eu lieu dans son stade, celui de Naples. C'est complètement dingue. Il y a un autre moment clé de sa vie, 4 ans avant. C'est quand il a refusé de reconnaître son fils. C'est à ce moment qu'il commence à mentir. Je pense que c'est à partir de là, de cette souffrance, qu'il sombre dans la drogue.
À la fin du film, Asif Kapadia alterne différentes images de Maradona, différentes époques, jeune, svelte, alerte, ou bouffi, tapant mollement dans un ballon, génie ou maître du chaos. Le documentaire montre un homme à la vie en forme de montagne russe, victime de ses propres failles, mais qui reste un des meilleurs joueurs du siècle. Sophie Torlotin, Médard Chablaoui, Benjamin Avayou, Cannes, RFI.
Maradona qui aurait dû assister à la projection officielle ce soir, mais il a finalement déclaré forfait car il doit subir une opération à l'épaule. La sortie de ce documentaire est prévue le 31 juillet. Dernière info, pour être tout à fait complet, Rafael Nadal qui remporte le Masters 1000 de Rome en battant Novak Djokovic en 3-7, 6-0, 4-6, 6-1. Mine de rien, cette saison, c'est seulement le premier titre gagné par l'Espagnol sur terre battue qui annonce la couleur pour Roland-Garros la semaine prochaine. Voilà, c'est terminé pour Mondial Sport. Merci à Fabrice Violet pour la réalisation. Dans un instant, et il est déjà en studio, Loïc Bussière pour 24 heures en France. Très bonne soirée.